Les podcasts du Collège de France, biologie.
Donc, ce que je voulais aujourd'hui, je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, mais je vais essayer de terminer cette affaire d'évolution de l'œil et de la vision. Peut-être pas complètement. En vous disant que, en parlant de l'évolution des opsines un petit peu, donc on va un peu abandonner les bactéries, vous allez voir, et les algues, dont vous avez nettement assez pour un cours de neurosciences, et se jeter un tout petit peu dans le système nerveux. Donc, tous les yeux, comme vous le savez, donc, ont besoin d'éléments de construction fondamentaux, parmi lesquels les photorécepteurs et les cellules pigmentaires, qui sont les deux types de cellules qui définissent d'une certaine façon un œil. Comme vous le rappelez ici, l'œil prototypique de Darwin, c'est l'association d'une cellule pigmentaire et d'un photorécepteur. C'est comme ça, en tout cas, que Darwin le définissait. Et ces photorécepteurs existent dans toutes les formes de vie, mais l'invention d'un appareil visuel, qui est une chose un tout petit peu différente qu'un photorécepteur, est beaucoup plus récente. L'évolution des photorécepteurs correspond donc à un processus qu'on peut dire séparé de celle de l'œil et qui a précédé l'invention de l'œil d'assez longue date, vous allez voir. Et puis, en dehors de l'œil, il y a aussi la vision, qui est une chose différente de l'œil, parce que la vision implique que le système nerveux central s'y mette. C'est-à-dire que vous puissiez faire monter l'information vers des centres capables d'analyser ce que l'on peut voir avec la caméra qui est fixée à l'avant, en général. Pas toujours, d'ailleurs. Donc, la représentation cérébrale est elle-même une acquisition postérieure à celle de l'œil, comme appareil visuel. Alors, évidemment, ça suppose qu'on s'entende sur la définition de l'œil. Et moi, je vais vous proposer celle de Darwin, qui est finalement la plus simple et que vous pouvez lire ici, c'est-à-dire un nerf optique. Donc, lui prévoit un nerf pour faire un œil, entouré de cellules pigmentaires et redécouvert d'une peau translucide. Mais on n'a pas besoin de lentilles ou de choses comme ça pour avoir un œil minimal, selon Darwin. Et alors, il se moque des Français. Darwin n'aimait pas les Français. Vous venez quand même de couper la tête de nos rois et tout ça. La détestation de la marque par Darwin, c'est la marque le rouge, plus que d'autres raisons véritables. Selon M. Jourdain et Pan, on peut encore descendre d'un niveau et trouver des agrégats de cellules pigmentées servant apparemment d'organes de la vision sans aucun nerf et reposant simplement sur de la matière gélatineuse. Ces yeux ne sont pas capables d'une vision distincte et servent seulement à distinguer l'obscurité de la lumière. Donc ce sont des yeux qui en quelque sorte ne voient pas ou voient sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, mais qui ne font pas l'économie d'un nerf qui lui permet à l'animal, si tant est que ce soit un animal d'ailleurs, de réagir. Cela n'implique pas l'existence d'un cerveau, au sens où une partie du champ visuel dans un cerveau est représentée au niveau structure cérébrale centralisée. Toit optique, colliculus supérieur, diencéphale, cortex, je crois que vous avez donné la présentation de Ramon y Cajal. Vous aviez l'œil, rappelez-vous, et puis vous montez vers le diencéphale. Ça, c'est le cortex visuel, avec ses associations avec d'autres aires. Et puis là, c'est ce qu'on appelle le toit optique ou le colliculus supérieur tel qu'il a été représenté par Ramon y Cajal. Je reviendrai, ça me permet de lire plus facilement. Encore que ce n'est pas très bien de lire, mais ce n'est pas grave. Donc la semaine dernière, quand j'ai développé le thème des eucaryotes unicellulaires, j'ai adopté le point de vue de M. Jourdain, en faisant remonter la vision, ou son invention, en fait, aux unicellulaires eucaryotes, voire aux procaryotes, quand je me suis permis de développer le chapitre sur les bactériorhodopsines. Donc aujourd'hui, comme je le disais, j'y arrive pas toujours. Je suis obsédé par les unicellulaires. Je vais essayer d'oublier les procaryotes et les eucaryotes unicellulaires et vous présenter l'évolution des rhodopsines chez les métazoaires. Puis je reviendrai à travers l'analyse de deux ou trois articles sur la question de l'origine monophylétique ou polyphylétique de l'œil. Je ne suis pas sûr d'y arriver, d'ailleurs, peut-être qu'on finira ça la semaine prochaine. Et derrière cette question monophylétique, polyphylétique de l'œil, qu'on a déjà abordée, je ne sais pas si je pense que vous en souvenez, je ne reviens pas dessus, sauf si vous voulez, hein, vous pouvez poser des questions éventuellement en cours de conférence, ou à la fin on peut rester un petit peu, hein. Vous trouverez derrière cette question une autre question que je viens de soulever comme ça, sans avoir l'air, du primat ou non du cerveau sur l'œil. Est-ce que le cerveau est venu avant l'œil, ou est-ce que, au sens de l'œil connecté à un cerveau, bien entendu, ou est-ce que l'œil est venu avant le cerveau? Ça a l'air d'une question sans intérêt. En fait, c'est une question très importante quand on s'intéresse justement à la question de l'origine monophylétique ou polyphylétique des yeux. Alors la lumière, vous en doutez, ça constitue une information très importante pour de nombreux animaux, pour toutes nombreuses formes de vie, hein, après tout. Et beaucoup de cellules contiennent des photopigments. Les plus connues sont celles qui sont impliquées dans la vision, parce qu'évidemment, elles ont développé des appareils spéciaux, hein, du genre microvilli, récepteurs, photorécepteurs qu'on a dans la rétine, mais, et qui permettent une concentration très importante des pigments. C'est ça, le développement d'un photorécepteur visuel, c'est qu'on a une concentration très très importante de pigments locales, qui autorise une réponse très rapide, c'est-à-dire qu'on voit très vite, et surtout une précision très rapide dans la distinction d'angle devient la lumière. Alors, on peut distinguer des différences angulaires petites, car n'oubliez jamais que voir, vous allez le voir tout à l'heure d'ailleurs, c'est quelque chose qui est important pour la fuite, ou au contraire pour l'attaque, pour le comportement moteur, donc être capable de se diriger en fonction de l'information visuelle qu'on reçoit, ce qui nécessite évidemment d'être capable d'analyser des différences angulaires de petite taille. Donc le groupe le plus large des photopigments, enfin j'élimine les flavoprotéines, hein, est représenté par les opsines qui fixent le rétinal, l'aldéhyde de vitamine A, j'en ai déjà parlé, et sont présentes dans presque tous les organismes, hein, des bactéries, excusez-moi, aux mammifères, en passant par les algues unicellulaires. Ce sont des protéines qu'on appelle à 7 domaines transmembranaires, on les appelle 7 TMR d'ailleurs, qui incluent une autre classe de récepteurs, qui sont plutôt inclus dans une classe de récepteurs qu'on appelle les GCRP, c'est-à-dire des récepteurs qui sont liés à des protéines G, qui sont des chémorécepteurs. Et alors c'est la plus grande famille, il faut savoir que les GCRP c'est la plus grande famille de récepteurs qui existe. Ici, je vous ai donné une diapositive, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir énormément de phénomènes de transduction, les photons, hein, bien entendu, puisqu'on en parle, mais les ions, les odeurs, les phéromones, toutes sortes de molécules, de protéines, etc. Et on les appelle G parce qu'elles sont liées justement à des protéines G qui, par hydrolyse du GTP, permettent de transduire le signal. C'est-à-dire, quand on change la conformation du récepteur, on a une hydrolyse du GTP. Alors ça c'est pour les G, et ça c'est aussi une protéine à 7 domaines transmembranaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais qui n'est pas liée à une protéine G, qui fait passer directement les ions. On en a parlé la semaine dernière, dans les bactéries par exemple, les bactéries aux rhodopsines font passer directement les ions sans passer par une protéine G. Là on a une hyperpolarisation, là une dépolarisation, mais on les appelle quand même GCRP, les gens font la confusion entre les deux, et je la ferai à partir de maintenant, voilà. Donc quand je dirais 7TMR ou GCRP, c'est la même chose. Donc les études de génomique, qui maintenant, évidemment, tous les jours, vous découvrez le génome d'un nouvel organisme, les études de génomique montrent que les rhodopsines et les bactériorhodopsines, c'est-à-dire ce qu'on trouve chez les bactéries et chez les eucaryotes, et encore plus évidemment chez les métazoaires, appartiennent à des familles distinctes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homologie de séquence. Mais il y a des homologies de structure. Et donc on peut dire aujourd'hui que le membre, on peut dire aujourd'hui, je ne sais pas demain, mais aujourd'hui, que le membre le plus ancien de la famille des rhodopsines a été retrouvé chez une levure, hein, qui est un eucaryote unicellulaire, sur la base d'analyse des séquences. Et ça, mais je dis aujourd'hui, parce que tout cela n'est évidemment pas contradictoire, avec l'idée que dans le génome du dernier unicellulaire commun, Lucas, hein, notre dernier ancêtre de toute vie sur Terre, qui a vécu il y a 3,5 milliards d'années, devait contenir des gènes ancestraux de ceux aujourd'hui exprimés dans de multiples lignages, prokaryotes et eucaryotes, à commencer par des gènes qui codent pour des GCRP. Donc, évidemment, on n'ira pas ressusciter Lucas, mais quand on trouve les mêmes gènes dans deux organismes, on peut supposer qu'il était présent dans l'ancêtre de ces deux organismes. Donc, ces récepteurs détectent une variété quasiment infinie, à vrai dire, ou presque, évidemment, de signaux physiques, chimiques et biologiques. Hein. Et de ce fait, ils sont extraordinairement importants, y compris sur le plan physiologique, sur le plan pharmacologique. Je vous ai rappelé la semaine dernière qu'ils sont la cible de nombreuses recherches en pharmacologie. Donc, ce que je fais ici, c'est un rapprochement, vous pouvez le voir, entre la chémoréception, c'est-à-dire la réception de molécules de ce type, et puis la photoréception. Donc la vision, qui a généré l'hypothèse qui a été proposée par Gehring en particulier. Je cite souvent Gehring parce que c'est l'homme qui a le plus travaillé de cette façon sur l'évolution du système visuel. Sur le plan auditif, ça veut dire que la chémoréception a précédé probablement, c'est ce que pense Gehring, la photoréception. Hein. Et sans anticiper sur quelque chose qui viendra plus tard, parce que quand je vous parlerai de l'invention de la multicellularité, qui fait partie du programme, eh bien, je parlerai pas mal, je pense, de Dictyostelium, qui est un organisme qui vit sous forme de cellules isolées, mais quand on commence à changer de nourriture, manquer de nourriture, il y a une des cellules qui commence à sécréter de l'AMP cyclique, et toutes les autres se rassemblent et viennent faire une limace, qui a un avant, un arrière, un dessus et un dessous, et qui commence à bouger, qui fait des spores, qui jette ses spores, et ça permet d'aller envahir d'autres biotopes pour récupérer la nourriture. Et les récepteurs à l'AMP cyclique qui sont exprimés par ces amibes, hein, ce sont des amibes, eh bien, comme vous pouvez voir, ont une homologie très forte, assez forte, avec la rhodopsine. Ça, c'est un article de Science de 1988, où ils ont analysé les homologies de séquence entre le récepteur à l'AMP cyclique, donc sur ces petites bêtes, et puis la rhodopsine bovine, et ils ont vu des homologies de séquence. Donc on peut imaginer qu'avant l'invention de la vision, ou l'invention de la vision s'est faite à partir de la chémoréception de molécules qui n'avaient rien à voir, hein, bien entendu, avec la vision, plutôt avec le sentir, si vous préférez. Donc, là, j'anticipe sur les cours suivants. Donc, les rhodopsines, d'une certaine façon, seraient des opsines qui auraient capturé leur ligand et qui l'auraient fixé définitivement au récepteur. Le ligand étant lui-même activé maintenant par la lumière, c'est-à-dire une sorte de sandwich qui serait mis en place au cours de l'évolution. Alors, évidemment, les protéines à 7 domaines transmembranaires, les récepteurs de type GCRP, ne travaillent pas tout seuls, ils sont en interaction avec d'autres protéines, hein, je vous ai montré ça ici, en particulier les protéines G, mais pas uniquement les protéines G, ils sont aussi en interaction avec des kinases, ils sont en interaction avec des molécules qu'on appelle les arrestines, dont le rôle est d'arrêter éventuellement l'activation des récepteurs, mais aussi de transporter le récepteur après l'endocytose, et donc de ça n'arrête pas forcément la réponse. Des fois, ça engage la réponse à l'intérieur de la cellule. Donc, les arrestines sont aussi des molécules très importantes sur le plan pharmacologique. Il y a différents types d'arrestines. Les arrestines visuelles sont de type bêta. Hein, et toutes les arrestines visuelles sont d'un certain type qu'on appelle le type bêta. Et cela suppose que cette branche d'arrestine a émergé avec les premières opsines. Donc il y a un couplage, si vous voulez, entre l'invention des opsines et l'invention des arrestines. Vous verrez pourquoi je vous dis ça. Par bioinformatique, toujours, l'arrestine visuelle la plus ancienne qu'on ait pu identifier est présente chez l'hydre. Hein. Donc chez l'hydre, on trouve aussi des opsines, et on trouve des opsines de type ciliaire, c'est-à-dire des opsines qui sont exprimées par des récepteurs ciliaires, vous allez voir ce que c'est, et qui interagissent avec des transducines, qui sont des grosses G intéressantes, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, chez l'hydre, vous avez déjà les éléments de base, les opsines ciliaires, les transducines, et les arrestines de type bêta, c'est-à-dire qu'avant
la séparation, avant l'invention même des organismes bilatérés, c'est-à-dire symétrie bilatérale, chez les organismes à symétrie radiaire, vous avez déjà l'élément essentiel de ce qu'est l'œil chez les vertébrés.
Donc c'est chez les cnidaires, hein,
chez les cnidaires, c'est-à-dire ici, hein, qu'au fond, on peut dire qu'on trouve le premier œil qui ressemble, par sa composition en tout cas moléculaire, à l'œil qui est le nôtre. Alors les hydres n'ont pas de cerveau, hein, ça c'est clair, mais elles ont quand même un système nerveux, d'une certaine façon, et qui n'est pas centralisé, et qui permet évidemment à l'hydre de répondre à des stimulations. Donc, donc c'est antérieur, comme vous voulez voir, à l'invention de la symétrie bilatérale qui est ici, et à bilateria que j'ai mis ici, parce que ça c'est les acélomates, et ça sont les célomates. Les acélomates, c'est quand le mésenchyme est dispersé dans l'organisme, il ne forme pas un feuillet particulier, comme chez les autres bilatères, chez les ancêtres célomates, chez tous les célomates. Nous sommes des célomates. Vous savez que nous sommes des célomates. Nous sommes tous des célomates sans le savoir, pour certains d'entre vous. Maintenant, vous êtes des célomates et vous le savez. Je ne suis pas sûr que ça fasse une grosse différence. Donc, c'est donc chez les cnidaires qu'on trouve, au fond, la trace la plus ancienne d'un système visuel, sans cerveau et sans système nerveux central centralisé. Alors, il n'y a pas d'opsine chez les éponges, hein, il n'y a pas d'opsine chez les organismes antérieurs aux hydres. Donc l'éponge, c'est le métazoaire de base, hein, en gros, le premier métazoaire, pour une certaine façon, on pourrait dire. Alors c'est ce qui a conduit un certain Parker, dans un livre qu'il a intitulé « In the blink of an eye », en un clin d'œil, associer la vision, l'invention de la vision, à l'explosion des formes animales au cours du Cambrien. Alors ça, c'est une idée que je trouve assez intéressante. D'abord, je vais vous donner une idée de l'explosion. Il y a 543 millions d'années, il y avait trois phyla, en gros, dans le monde dans le monde vivant. Il y a 538 millions d'années, c'est-à-dire en quelques 5 millions d'années, le nombre de phyla est passé de 3 à 35, c'est-à-dire que c'était multiplié par plus de 11 en 5 millions d'années, ce qui n'est rien du tout. Hein. Et depuis il y a 335 millions d'années, il ne s'est rien passé de nouveau dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé de forme animale nouvelle au niveau des phyla, bien entendu, on a inventé des choses. Mais il n'y a pas de nouveau phylum qui soit créé depuis. Donc c'est une véritable explosion sur le plan de l'invention des formes vivantes. Et alors là, on peut dire, oui, les animaux mous, hein, invertébrés, peut-être qu'on a raté des fossiles, qu'on en a perdu, bon. Mais l'hypothèse que c'est la vision qui est à l'origine de cette explosion me paraît très, très stimulante. Donc, comme je disais, les phyla de l'époque précambrienne sont des phyla de corps mou, hein, des mollusques, et les organismes qui présentent des parties dures dans leur organisation corporelle sont typiques du cambrien. C'est avec le cambrien qu'on voit arriver des carapaces, des durcissements de la bouche, des choses dans ce genre-là. Et c'est à ce moment-là aussi que s'est développée la vision, en particulier la vision des couleurs. Donc l'idée est que la vision était l'origine d'une course aux armements. Hein. Les prédateurs, vous l'imaginez bien, sont beaucoup plus efficaces quand ils voient. Donc ils peuvent repérer leur proie et foncer dessus. Et du coup, ceux qui survivent sont ceux qui peuvent avoir des armes défensives. Hein. Alors les armes défensives, c'est quoi? C'est les carapaces, évidemment. Et puis, c'est les camouflages, c'est-à-dire la capacité de changer de couleur, de s'adapter au milieu de façon qu'on ne vous voit pas, les camouflages. Mais aussi, on peut avoir des armes offensives, du coup, on est obligé de développer des armes offensives, comme les parties dures sur le pourtour de la bouche, les mâchoires, les dents, et des choses comme ça. C'est donc l'œil des arthropodes, d'une certaine façon, l'œil des arthropodes, l'œil de ces bestioles de ce côté-là, hein, qui a déclenché cette course aux armements, parce qu'évidemment, la reconnaissance de l'autre comme proie ou comme prédateur nécessite que se développe un système d'analyse des images, hein, et de leur représentation, voire de leur compréhension. Ah, ça, c'est un prédateur. Donc là, vous avez besoin d'un cerveau, pour le coup. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir uniquement une caméra. C'est-à-dire que ce que vous voyez, il faut comprendre ce que c'est, parce que votre vie en dépend, éventuellement. Et aussi votre dîner du soir en dépend. Donc ça marche dans les deux sens. Donc c'est avec ça que ça a démarré. Donc on peut dire que si la vision a effectivement démarré, de mon point de vue, avec les algues unicellulaires, la conscience, elle, commence peut-être avec l'œil du cafard. Hein. Le cafard qui est antérieur à la drosophile, qui est un être extraordinairement évolué. Le cafard se développe un petit peu comme nous. Je vous expliquerai ça un jour, si vous voulez. Ce qui pose évidemment la question à ce moment-là, qui est une question très importante, de la centralisation du système nerveux pour justement faire remonter les images et la conscience de ce qu'on voit jusqu'au centre supérieur. Voilà. Donc, on peut dire que les arthropodes et les vertébrés ont développé à ce moment-là un cerveau. Mais si les arthropodes et les vertébrés ont développé un cerveau, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion ? Bah, que, comme moi, que l'ancêtre des arthropodes et des vertébrés devait avoir un cerveau. Alors là, ou alors il faut dire que les espèces qui sont ultérieures à la séparation entre les arthropodes et les vertébrés ont inventé le cerveau deux fois, c'est-à-dire la centralisation du système nerveux deux fois de façon indépendante, comme on le fait pour l'œil. Hein, c'est aussi une hypothèse pour l'œil. Donc, personnellement, je vais vous dire, je penche pour l'idée que c'est plutôt des... Alors, parce qu'en plus, si vous voulez, évidemment, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a des hémichordés qui ont perdu qui n'ont pas de cerveau, et qui, eux, sont pourtant ultérieurs. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez des hémichordés. Cette petite bestiole, ici, est un hémichordé, et l'hémichordé, cet hémichordé n'a pas de cerveau. Donc, ça voudrait dire que si le cerveau était présent chez le précurseur, eh bien, cet hémichordé aurait perdu son cerveau. On peut perdre son cerveau. Je vous ai dit, le cerveau, c'est quelque chose qui mange énormément d'énergie. Donc, si on n'en a pas besoin, il faut mieux le perdre. Y a des animaux qui perdent leur cerveau quand ils deviennent sédentaires. Parce que, bon, chez la plupart des animaux, le cerveau, ça sert à bouger. Donc, on a une période de larve où on bouge, on a un cerveau, on se fixe sur un rocher, on mange avec la flotte qui arrive et qui filtre les micro-organismes, on perd son cerveau. Les oiseaux, par exemple, quand ils n'ont pas besoin de chanter, ils perdent une partie de leur cerveau. Pour voler, c'est quand même mieux de ne pas avoir à transporter ce truc qui, un, est lourd, et deux, vous consomme énormément d'énergie. Donc, un jour, je vous ferai un truc sur le chant des oiseaux, si vous voulez. Vous verrez, c'est très intéressant, cette capacité à perdre son cerveau régulièrement. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à bouger. Entre autres raisons. Donc moi, je penche plutôt, si vous voulez, à la perte secondaire liée à l'environnement, sous le thème « À quoi bon entretenir un organe coûteux en énergie et rendu inutile par un nouveau mode de vie ?» La petite bestiole que j'ai vue, elle vit dans les fonds et elle est totalement immobile, elle filtre l'eau et elle se nourrit comme ça. Et d'ailleurs, il y a des vertébrés qui ont perdu leur cerveau. Par exemple, des poissons, des sables de poissons, qui sont des poissons qui vivent dans des caves au Mexique. Hein, alors voilà deux poissons qui vivent dans des caves au Mexique et que vous voyez qu'ils ont perdu leur cerveau, leurs yeux. Ils ont perdu la vue carrément. Donc ils ont encore un cerveau, mais ils ont perdu la vue. Mais ils n'ont pas besoin de voir parce qu'ils sont dans le noir. Donc il n'y a pas de lumière. Donc l'œil, c'est comme pour les taupes, l'œil est parti. Et c'est des pertes secondaires, bien entendu, hein, qui sont liées à des mutations dans des gènes qui sont responsables de développement de la vue. Donc voilà, celui-là, il a perdu deux gènes verts qui interrompent la chaîne œil. Lui, il a perdu deux gènes noirs qui interrompent la chaîne œil. Mais donc, si je les croise ensemble, les petits vont avoir un vert, un noir, et ils vont retrouver la vue. Donc ils ont deux parents aveugles, mais eux, ils voient. Voilà. Ce qui prouve que tout était encore en place, que c'est vraiment une perte secondaire liée à un nouveau biotope, même si la perte s'est faite de façon, pas de la même façon dans les deux poissons, dans les deux familles de poissons, qui sont de la même espèce. Donc, bon, quoi qu'il en soit, j'aimerais que vous réalisiez que sur les 38 phyla qui existent aujourd'hui, il n'y a que 6 phyla qui aient des yeux, mais que ces 6 phyla correspondent à 95% des formes animales vivantes sur Terre. Donc en fait, 95% des formes animales vivantes sont pourvues d'un appareil visuel. Donc, pour résumer cette première partie, et avant de passer aux opsines, auxquelles je n'arrive pas à passer, et justement à l'évolution de la vision des couleurs, je pense qu'on peut suivre un article de Carlos Alvarez qui a été publié en 2008 dans BMC Evolutionary Biology. Il dit que, donc, un, s'il y a un lien d'homologie entre les récepteurs à sept domaines transmembranaires des prokaryotes et des eucaryotes, le fait que les G-protéines ne soient présentes que chez les eucaryotes démontre que les modes de signalisation sont distincts entre prokaryotes et eucaryotes, ça je pense que c'est clair. La présence d'une arrestine chez les archées et les bactéries pose l'hypothèse d'une interaction entre ces protéines de membrane et les arrestines chez les prokaryotes, mais il ne s'agit pas d'une arrestine bêta, donc pas d'une arrestine de type visuel. Et enfin, je vais vous laisser raisonner sur ce fil conducteur, qui est le fil conducteur de tout ce chapitre, mais aussi de tout le cours d'une certaine façon. La présence chez les cnidaires d'opsines de type ciliaire, capable d'interagir avec des transducines de type de G-alpha de type transducine, suggère que cette famille ciliaire est ancestrale et plaide dans la faveur de la thèse de Darwin d'une origine monophylétique de l'œil. Donc, c'est presque un procédé didactique. Je reviens parfois avec des diapositives des semaines précédentes pour que, puissiez les, que vous pouvez avoir. Il suffit de me les demander. Hein, les diapos, je les envoie. Si vous en avez envie, je les envoie par mail. Donc, les opsines, vous vous souvenez, via le 11-6 rétinal fixe. Non, les opsines fixent le rétinal, le 11-6 rétinal. Et ce qui se passe après, c'est qu'il y a une transformation en all-trans rétinal, une rotation en fait autour d'une liaison carbone-carbone. Et ben, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut quand même que ça se régénère. Donc en fait, vous avez aussi des photoisomérases hein, qui sont des opsines, hein, qui relient le all-trans. Ce sont des opsines qu'on trouve en particulier chez le calamar. On les retrouve aussi chez nous dans l'épithélium pigmentaire. Et qui permettent de repasser sous la forme 11-6 pour régénérer les pigments visuels. Sinon, on ne verrait qu'une fois. Ce serait un fusil à un coup. Ce ne serait pas formidable. Donc, ces opsines visuelles, toutes les opsines visuelles. Alors, il y a les opsines visuelles, il y a les opsines qui sont dans les yeux, mais aussi des opsines qui ne sont pas dans les yeux. Par exemple, des opsines que vous avez dans la glande pinéale, qui permettent de sentir le jour et la nuit, mais qui ne permettent pas de voir, d'intégrer une image, bien entendu. D'ailleurs, ces opsines, vous avez aussi dans la rétine. J'y reviendrai dans un moment. Donc, il régule, il ne voit pas, mais ça régule le cycle circadien. Donc, les opsines dont nous parlons, puisqu'on a oublié les opsines bactériennes, sont dites rhodopsines de type 2, et recouvrent donc chez les animaux les récepteurs visuels des cônes et des bâtonnets, les récepteurs de la glande pinéale et de l'hypothalamus. Vous avez aussi des récepteurs à lumière dans l'hypothalamus. Vous avez aussi les rétinochromes ou ces photoisomérases qui sont présentes chez les céphalopodes et dans l'épithélium pigmentaire chez nous. Et il y a aussi d'autres récepteurs non rétiniens mais qui sont cérébraux, profonds ou testiculaires. Vous avez le testicule sans les variations lumineuses. Il ne les voit pas, mais il les perçoit. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais bon, il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas dans ces affaires. Peut-être que ça ne sert à rien, d'ailleurs. Mais j'ai tendance à penser que tout ce qui ne sert à rien n'existe pas. Mais ça, c'est un point de vue très personnel. Il y a des gens qui pensent qu'il y a plein de trucs inutiles, mais j'ai du mal à imaginer qu'il y ait des choses qui soient là et qui aient été conservées par l'évolution et qui n'aient pas une fonction. Mais bon, c'est mon caractère finaliste, peut-être. Ou simplement l'idée de ce que c'est qu'une pression sélective à travers j'ai du mal à imaginer qu'il y ait des choses qui soient là sans fonction. Donc, le modèle des rhodopsines, c'est la rhodopsine bovine, pour des raisons évidentes, c'est-à-dire qu'on peut en avoir beaucoup. Hein. Donc, elle a été cristallisée. Et sur la base de cette rhodopsine, eh bien, on a divisé les rhodopsines en sept familles, dont je vous ai un tout petit peu parlé. Pour aller très vite, donc les récepteurs visuels, hein, cônes et bâtonnets, les pinopsines, hein, qui sont des récepteurs extraoculaires de la glande pinéale, rythme circadien, on les retrouve aussi dans l'hypothalamus, en particulier chez le crapaud, Il régule la synthèse de la mélatonine. Hein, c'est pour ça qu'on donne de la mélatonine pour récupérer des cycles nictiméraux. Je ne suis pas sûr que ça marche. Enfin, tant que j'ai cru que ça marchait. Le jour où j'ai cru que ça ne marchait plus, ça ne marchait plus. Donc, je ne pense pas être le seul dans ce cas-là. Les rétinochromes dont je vous ai parlé, qui régénèrent le rétinaldéhyde, qui sont présentes chez le calamar, mais aussi qui sont chez nous dans les pigments visuels. Et puis, on trouve aussi des opsines dans les cellules de Müller. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi, parce que les cellules de Müller sont dans la rétine. Là, c'est une rétine. Donc, les rétines, vous avez les photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. Vous avez des cellules horizontales, vous avez des cellules bipolaires, et vous avez les cellules ganglionnaires. Donc, ça, c'est une rétine de vertébrés, avec ici l'épithélium pigmentaire, qui sont des cellules pigmentées. Et les cellules de Müller sont des cellules qui partent de la surface de l'œil et qui vont ceinturer d'une certaine façon les photorécepteurs. Ce sont des astrocytes, en fait, peut-être des cellules souches, mais ils ont aussi des opsines, donc on ne sait pas très bien à quoi ça leur sert. Des opsines, d'ailleurs, qui absorbent dans le bleu et le violet. Bon. Donc on ne sait pas très bien toujours à quoi servent les choses. Donc on peut ajouter aussi d'autres opsines qui jouent un rôle dans le camouflage, la détection des changements saisonniers, etc., etc. Donc ceux que ça intéresse peuvent les voir dans les revues spécialisées sur les opsines ou me demander des références. Je n'en manque pas. J'en ai quelques-unes sur mon bureau en tout cas. Alors, la présence de toutes ces familles chez les vertébrés et les invertébrés suggère que la diversification de la famille, on raisonne toujours de la même façon, la diversification de famille prédate, hein, est antécédente à la séparation entre ce qu'on appelle les protostomiens et les deutérostomiens. Alors cette séparation entre protostomiens et deutérostomiens, elle recoupe celle entre vertébrés et invertébrés à symétrie bilatérale, d'une certaine façon. Je ne sais pas si j'ai là quelque part. Je vous l'avais donné, voilà. Donc à partir de là, on peut dire qu'on a le protostomien et les deutérostomiens. C'est lié à la façon dont se développe l'organisme. C'est-à-dire que il y a un moment où on parle de l'induction, de la gasculation, la formation de l'induction neurale. Il y a un trou qui se fait dans la blastula, qui est une paire de l'embryon. Et ce trou, ce premier trou, c'est la bouche, protostomien. Ou bien ce premier trou n'est pas vraiment la bouche, il est l'anus et la bouche se ferme plus tard. Mais en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que ce n'est pas vraiment comme ça, qu'il y a une fente, qu'il y a l'anus et la bouche qui se font en même temps chez les deutérostomiens. Mais ça a été une classification sur la base, si vous voulez, de l'embryogenèse. Donc, de nouveau, sachez que nous sommes des deutérostomiens, alors que les arthropodes, les nématodes, les planaires, les rotifères et autres annélides sont des protostomiens. Voilà. Ça pourra vous servir dans les dîners en ville. Ou alors, je vais donc être protostomien, on peut avoir toutes sortes de trucs dans ce genre-là. Donc je reviens à mon récepteur. Je reviens à mes récepteurs et pour vous rappeler que les opsines via une lysine qui est en position 296 sur les lysines 7, c'est-à-dire le 7e séquence chromosomaire, lie le rétinal par une base de Schiff, voici une base de Schiff avec une double liaison entre l'azote et le carbone, et que c'est cette isomérisation 11-6 ultrans qui permet de transférer l'énergie lumineuse sous la forme d'un changement de conformation qui lui-même active par derrière, par-dessous plutôt, les protéines G. Alors, ce processus est extraordinairement rapide, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que le changement de conformation se produit en 200 femtosecondes, hein, 10 puissance moins 15. Donc, c'est un processus très, très rapide. Et ensuite, vous avez donc toute cette chaîne de réaction qui conduit, somme toute, à l'hydrolyse de l'AMP cyclique en 5' CMP et à la fermeture des ions. C'est très, très bien. Normalement, c'est un système qui est poreux. À ce moment-là, je ferme mon canal et j'entraîne une hyperpolarisation de mon système. Et tout ça, évidemment, s'accompagne d'une modification de conformation de mon récepteur qui, lui aussi, se passe dans un temps extraordinairement rapide. Je ne sais plus, je crois que c'est en 200 picosecondes. En 200 picosecondes, j'ai fait tout le tour, si vous voulez, et je suis arrivé à cette forme qui est la forme, en fait, active et transductrice du signal, la méta 2. C'est aussi un système qui est très amplificateur. Au fond, un photon active plusieurs centaines de protéines G, et vous hydrolysez immédiatement entre 10 000 et 100 000 molécules de GMP cyclique, donc il y a déjà de 1 à 100 000 au niveau, à ce niveau-là, et vous ouvrez de l'ordre de 1000 canaux ioniques d'un coup. Voilà, un photon, et je ferme plutôt, un photon, et je ferme environ 1000 canaux ioniques. Chez les invertébrés, un photon, et j'ouvre 10 000 canaux ioniques. Donc, voilà. Donc, pour s'en tenir aux vertébrés, j'ai un petit peu de mal, il existe aussi une réception non visuelle au niveau de certaines cellules ganglionnaires. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire que tous vos neurones ganglionnaires sont capables d'avoir la réception visuelle, mais de temps en temps, il y en a une, et en fait, il y en a 500 dans une rétine de souris, 500 sur 1 million, hein, qui est capable d'avoir une ouverture de type différente, en fait, qui n'est pas liée au même système. C'est purement ionique, hein, exactement comme ce qui se passe dans une algue. Et ça va vers l'hypothalamus. Et ça vous envoie un signal un petit peu différent. C'est la même fibre, d'ailleurs, qui se divise pour aller soit vers l'hypothalamus ou vers le thalamus. Donc vous avez forcément une coordination des deux informations. C'est probablement une information de type aussi nictiméral, parce que ce n'est pas quelque chose qui permet de voir, théoriquement, mais c'est quelque chose qui est important, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière, mais j'y reviendrai, ces cellules, ces récepteurs de type OPN4, ça veut dire qu'ils ont tout ce qu'il faut à l'intérieur pour fonctionner, et si vous les exprimez dans les autres neurones ganglionnaires, eh bien vous pouvez voir, sans passer par les photorécepteurs, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer une information lumineuse au niveau du cortex sans avoir besoin de passer par les photorécepteurs. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous montrerai la diapositive tout à l'heure. Quand on fait ça chez les animaux qui n'ont plus de photorécepteurs, donc ils sont aveugles, et qu'on remplace dans ces neurones ganglionnaires, on leur met, on augmente le nombre de neurones ganglionnaires de cette catégorie en faisant passer ce gène dans d'autres cellules, eh bien on restaure une réponse visuelle au niveau du cortex et du thalamus. Donc ça, c'est intéressant d'un certain point de vue. C'est aussi intéressant d'un point de vue évolutif, car vous verrez qu'en fait, ces neurones ganglionnaires sont des photorécepteurs. Ce sont d'anciens photorécepteurs de type rhabdomérique, je viendrai sur cette division plus tard, qui sont transformés en cellules capables de transporter l'information de la périphérie au cerveau. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus photorécepteurs, mais ils l'ont été. Alors, d'un point de vue, de nouveau, de la vision des... La vision, donc, vous avez ici, comme vous le savez, je pense, voilà les cônes, hein, ils sont tout petits, et voilà les bâtonnets, qui sont quand même des beaucoup plus grosses bêtes que les cônes. Donc, les bâtonnets transmettent une vision de type photopique, c'est-à-dire scotopique, c'est-à-dire que gris, c'est pas très coloré. En fait, c'est la vision le soir, quand la nuit baisse, qu'il n'y a plus de lumière, qu'il n'y a plus de couleur. Ce sont les cônes qui fonctionnent. Ce sont les bâtonnets qui fonctionnent. Les cônes sont responsables, eux, de la vision colorée. Et évidemment, cette sensibilité à différentes longueurs d'onde, hein, qui explique la vision des couleurs, est liée à différentes formes de rhodopsine. Donc, en fait, il y a des rhodopsines qui sont sensibles à des longueurs d'onde variées. Alors, voilà ici pour les bâtonnets, hein, qui reçoivent environ à 500 nanomètres. Hein, et vous avez le rouge, qui sont les longues longueurs d'onde. L, c'est pour longue, donc vous avez une réponse autour de 510-560 nanomètres dans le rouge, hein, par ici. Vous avez la rhodopsine 2, alors, qui est née d'une duplication entre un gène primitif de rhodopsine qui a donné R1 et R2. R2 a donné le vert, hein, comme couleur. Et puis vous avez des rhodopsines à courte longueur d'onde qui reçoivent donc dans le 440-460 voire 360-430, dans certaines espèces, vous pouvez voir l'UV, vous pouvez voir le bleu. Donc, ces différentes rhodopsines qui sont exprimées dans vos cônes, dans les cônes des vertébrés, permettent une vision des couleurs, c'est-à-dire que percevoir, faire l'analyse spectrale, d'une certaine façon, de ce qu'il peut y avoir dans la lumière. Alors, tout ça était le produit d'une
d'une évolution, comme toujours, depuis le précambrien jusqu'à aujourd'hui. Le nombre de rhodopsines a varié énormément, et même on en a perdu. C'est-à-dire que quand on est passé, je ne vous donne pas tous les détails parce que ça n'a pas un très grand intérêt, mais vous voyez que les poissons cartilagineux, les poissons osseux, les poissons à os, hein, la dorade, le turbo, enfin, toutes ces choses-là, ont un spectre de couleurs absolument incroyable, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment capables de voir beaucoup de choses. Chez les mammifères, on a perdu chez les mammifères pratiquement énormément de vision, y compris on a perdu le vert. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le vert là, mais en fait les mammifères ne voient plus le vert. Mais les primates ont récupéré une vision du vert. Nous voyons le vert, mais à la suite en fait d'une duplication du rouge, cette rhodopsine s'est divisée en deux et a réévolué pour nous redonner le vert chez les primates. Donc en fait, les mammifères non primates ont une vision des couleurs qui est extrêmement faible, ils voient essentiellement du noir et blanc, quoi. Donc probablement qu'ils n'en avaient pas besoin. Il semblerait que quand on est dans l'eau, c'est peut-être pour ça qu'il y a des plongeurs qui aiment bien voir les coraux, les machins, peut-être que quand on est dans l'eau, on a une pression sélective pour la vision des couleurs qui est beaucoup plus forte que quand on se balade. Enfin, ça, c'est une explication ad hoc. Je ne sais pas si c'est comme ça, en tout cas. Mais c'est un fait avéré, comme on dit, que les poissons voient mieux que les mammifères. Enfin, voient plus de couleurs que les mammifères. Est-ce qu'ils voient mieux, ça, c'est une autre affaire. Donc, ça veut dire que depuis la séparation des vertébrés et des invertébrés, des protostomiens et des deutérostomiens, si vous préférez, les opsines ancestrales ont subi une série importante de duplications et de diversifications. Hein. Donc, je ne vais pas insister trop là-dessus, parce que c'est assez facile de retrouver les données. Je vais quand même juste vous donner un petit mot d'avertissement. Les duplications, on a longtemps pensé que l'évolution fonctionnait par duplication de gènes, et modification des gènes dupliqués. C'est-à-dire que j'ai un gène, j'en fais deux, vous allez voir, j'en parlerai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps. Et puis, comme j'en ai un qui marche, l'autre, je peux le faire muter et il va me donner autre chose. Et en fait, très longtemps, les biologistes ont pensé que c'est comme ça que l'évolution a fonctionné, par duplication de gènes et puis une diversification des fonctions par mutation qui arrive sur un des deux gènes. C'est la roue de secours. Après tout, on peut se passer d'une roue de secours si on peut en faire quelque chose de plus intéressant qu'une roue, par exemple. Un volant, par exemple. En fait, ce n'est pas si évident parce qu'il y a des effets de dosage génétique qui sont importants. Et quand vous dupliquez un gène, si vous multipliez par deux la protéine que ce gène, pour laquelle ce gène code, vous pouvez avoir des effets qui sont des effets délétères. Donc en fait, ce n'est pas si souvent qu'il y a des duplications qui ont été conservées. Quand elles ont été conservées, c'est souvent quand le gène est passé sous le contrôle d'un autre promoteur qui permet que ce second gène ne soit pas exprimé au même endroit et au même moment, éventuellement. Donc, il y a eu des duplications. C'est vrai que c'est une base importante de l'évolution des espèces, mais ce n'est pas une base aussi qui a été utilisée, ce n'est pas un mécanisme qui a été utilisé aussi, de façon aussi massive qu'on avait pu le penser à un instant. Donc, là, je voudrais, une seconde, je vous ai parlé des récepteurs des protéines rhabdomériques, et des protéines ciliaires. J'en ai parlé depuis en vous disant que les ciliaires étaient présents chez les hydres, et que donc ça veut dire que le ciliaire c'est le premier. Ça veut dire quoi, rhabdomérique et ciliaire? Ça veut dire ça. Donc voilà ici un rhabdomérique, et voici ici un ciliaire. Les ciliaires agissent par l'hydrolyse du GMP cyclique, donc en fait c'est les ciliaires que nous avons massivement dans notre système visuel, et les rhabdomériques sont censés être plus, si vous voulez, des récepteurs de type invertébré. En fait, jusqu'à il y a 2-3 ans, ou 4-5 ans, je ne sais pas, on disait rhabdomérique invertébré, ciliaire vertébré. Aussi simple que ça. Et en fait, ce n'est pas du tout aussi simple que ça, parce que vous avez vu que le premier ciliaire, c'est chez une hydre, qui n'est pas invertébré, que je sache. Donc, la différence, c'est ça, c'est les ciliaires sont, en fait, des cils modifiés, c'était des... Vous voyez, il reste encore un petit bout de cil ici. Et le cil, la membrane du cil, le cil, il y a des microtubules dedans, il y a 9 frangies de microtubules. Vous avez une membrane qui entoure les microtubules,
Et cette membrane, c'est a formé des villosités, hein, soit chez les bâtonnets, soit chez les cônes, qui vont d'accumuler un très grand nombre de récepteurs à la surface, mais ce sont des structures qui dérivent d'un cil ancestral. Hein. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des protéines, des récepteurs de type ciliaire. Hein. Les rhabdomyriques, ce sont des cellules qui viennent en fait, d'épithélium, de microvillosités, comme vous avez dans vos cellules intestinales, et ce sont ces microvillosités qui, elles, ont accumulé les récepteurs. Donc ce sont deux types de récepteurs différents, les ciliaires étant les plus anciens, les premiers, finalement, mais ceux qu'on retrouve aussi de façon la plus affirmée chez nous. Hein. Donc, pour maintenant continuer, j'ai besoin de vous faire une petite leçon, un petit rappel sur ce qu'on appelle les gènes orthologues et les gènes paralogues. Hein. Alors, ici, un gène ancestral en rouge, hein, il peut se diviser par duplication, donc on va avoir deux gènes rouges. D'accord. Et ce qui est exactement ce que je disais tout à l'heure, ça, c'est ce qu'on appelle on les appelle paralogues. Hein. Ils sont contemporains, on les appelle paralogues. Et ça, c'est l'invention, j'ai une évolution. Et donc, comme ce gène est là, il peut remplir la fonction, celui-là est devenu inutile. S'il n'est pas trop toxique quand il est exprimé deux fois, et si on a un petit peu de chance, il peut passer sous le contrôle d'un autre promoteur. À ce moment-là, ce gène peut évoluer pendant que cette fonction-là est gardée. Et maintenant, vous allez avoir deux gènes, un rouge et un violet, ce violet ayant acquis une fonction nouvelle. Donc, mais ces deux gènes sont dits des gènes paralogues. D'accord ? Des gènes orthologues, c'est complètement différent. C'est deux gènes qui dérivent du même gène ancestral. Voilà, vous voyez ici, par exemple, j'ai ce gène rouge. Et puis, disons que ce serait chez un ancêtre des vertébrés et des invertébrés. Et puis, chez le vertébré, il a donné un gène rouge de vertébré. Et chez un invertébré, il a donné un gène rouge d'invertébré. Et ces deux gènes sont homologues à travers l'évolution. Et c'est pour ça qu'on les appelle orthologues. D'accord ? Donc ça, ce sont des paralogues, et ça, ce sont des orthologues. Je dis ça parce que j'aurai besoin de cette notion dans les minutes qui viennent. Donc c'est une distinction qui vous est nécessaire, pour éclairer un point d'évolution concernant nos propres cellules ganglionnaires. Hein. Et là, je vous renvoie à des papiers d'un monsieur qui s'appelle Arendt, qui doit avoir une trentaine d'années, 35 ans, qui travaille à Heidelberg, à l'EMBL, et qui s'est intéressé à l'évolution du système visuel. Je pense qu'il a... La plupart des biologistes, jusqu'à une certaine période, quand ils s'intéressaient à la génétique du développement, et parce que évidemment, l'évolution et le développement sont extraordinairement liés dans ces cas-là, ils faisaient des mutations, hein, et puis ils regardaient où s'exprimaient les gènes, puis il retirait un gène, puis regardait ce qui se passait chez l'organisme. Je retire un gène, je perds un bras, donc j'ai le gène du bras, par exemple, pour faire court. Et en fait, c'est une façon de faire un tout petit peu rapide, parce que ça fait l'économie de tout ce qui se passe entre le gène et la structure, c'est-à-dire toute la biologie cellulaire du développement, qui est probablement la chose la plus fondamentale. Donc, ce que Arendt a eu l'astuce de faire, c'est de dire, il faut regarder toute la batterie de gènes qui est exprimée par une cellule, hein, et donc on a, pour ainsi dire, une carte, un fingerprint de cette cellule, et on regarde les gènes orthologues dans un autre organisme, et donc on peut voir si on a une cellule orthologue, d'une certaine façon, et même une région orthologue, c'est-à-dire que je pense que personne n'a parlé de région orthologue, mais sur la base de l'orthologie des gènes exprimés dans deux régions différentes, dans deux régions, dans deux organismes différents, par exemple chez un descendant, un vertébré et un vertébré, si vous avez des régions qui expriment les mêmes gènes, vous pouvez dire que ce sont deux régions orthologues, pourquoi pas, d'accord ? Et il a fait ça avec chez Platyneiris, qui est un organisme pas tout jeune, vous allez voir. Et ce qu'il a regardé dans ce truc, c'est qu'il a vu qu'il y avait des yeux larvaires et des yeux adultes de type rhabdomérique, avec des récepteurs qui sont des rhabdomères. Mais ensuite, il s'est rendu compte qu'il y avait un gène qui s'appelle RX, qui est exprimé aussi chez Platyneiris, et qui est un gène de l'œil, mais qui en même temps exprime des opsines de type ciliaire.
Alors, on ne s'attendait pas à trouver des obscines de type ciliaire chez un invertébré de cette famille. Et ensuite, il a été regardé, fait la même comparaison chez une... ça, c'est une souris. Hein, on se rend compte qu'il y a effectivement des régions qui sont des régions orthologues, hein, sur le plan de l'expression d'un certain nombre de gènes. Et le résultat des choses, c'est que si ici je suis chez mon platinéreis, vous voyez que j'ai là des récepteurs de type ciliaire que je n'attendais pas du tout, hein, qui ont été découverts à cette époque. Il l'a fait en prenant, en regardant l'expression de gènes de cils, hein, de gènes de cils qui sont des gènes qui codent pour des tubulines alpha-acétylées. C'est pas un problème, disons, appelons-le gène de cils. Si vous voulez un petit peu d'eau. Je ne la bois pas. Ici, donc ça, ce n'était pas attendu. Et puis, ce qu'on voit ici, ce sont des récepteurs rhabdomériques dans l'œil adulte, et aussi d'ailleurs un récepteur rhabdomérique dans l'œil larvaire. Donc l'idée, c'est que si on peut trouver des rhabdomériques et des ciliaires chez Platinéreis, on devrait être capable de trouver des rhabdomériques aussi chez la souris. Et en fait, effectivement, il y a des rhabdomériques chez la souris, mais ces rhabdomériques, ce sont nos neurones ganglionnaires. Donc en fait, ces récepteurs chez notre ancêtre commun, il y avait des rhabdomériques, mais les rhabdomériques ont disparu comme récepteurs chez les vertébrés pour devenir les neurones ganglionnaires, ceux qui envoient l'information vers les centres supérieurs. Donc ça, je trouve que c'est assez amusant parce que vous rappelez que la semaine dernière, j'avais terminé le cours en vous montrant que si on exprimait la mélanopsine, qui est un récepteur de type rhabdomérique, dans des neurones de la rétine, d'une rétine qui a perdu la vue parce qu'elle n'a plus de photorécepteurs, c'est ma souris RD- homozygote, eh bien, je suis capable, vous voyez ici, de récupérer un réflexe pupillaire, rappelez-vous, c'est-à-dire que là, j'augmente la lumière. Ça, c'est ma souris mutée. Il faut en mettre un gros paquet pour qu'elle commence à fermer la pupille. Mais ça, c'est la souris sauvage qui répond normalement en fermant, en rétrécissant la pupille. Mais par contre, si j'ai exprimé ce récepteur, à ce moment-là, dans les ganglionnaires, hein, donc pas dans des photorécepteurs, normalement, dans les ganglionnaires, je suis capable de la faire répondre. Et là, c'est aussi, les souris, comme je vous rappelais la semaine dernière, n'aiment pas la lumière. Donc normalement, elles s'orientent vers le compartiment noir quand il y a trop de lumière ici. Donc la souris mutante, elle s'en fiche complètement. Elle va une fois sur deux à droite, une fois sur deux à gauche, 50%. Mais si j'ai exprimé dans les neurones ganglionnaires qui ne sont pas des photorécepteurs, si j'ai exprimé la mélanopsine, hein, OPN4 en fait, c'est la même chose, et bien à ce moment-là, ma souris est capable d'éviter le compartiment lumineux, elle va maintenant aller à 100% dans le compartiment noir. Donc, c'est assez drôle parce que cette manip a été faite sans que les gens sachent que les neurones ganglionnaires étaient des récepteurs, des photorécepteurs. Ils pensaient que c'était simplement des neurones ganglionnaires. On va essayer. C'est simple parce qu'avec la mélanopsine, on n'a pas besoin de transducine derrière. Ça va juste ouvrir un canal. Donc, et le canal est compris dans la mélanopsine. Donc, on a besoin de mettre qu'un seul gène pour redonner de la sensibilité à la lumière à mes neurones ganglionnaires. Et ce qu'ils ont fait, en fait, c'est de réinventer simplement l'évolution, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que ces neurones étaient des neurones capables de transmettre l'information lumineuse à partir du moment où ils expriment le récepteur. Et voilà, quoi. Donc c'est de l'évolution convergente, quasiment, à l'échelle du laboratoire. Donc, oui, où est-ce que j'en suis? Voilà. On a un petit peu de temps encore. Donc, Arendt propose donc que les neurones ganglionnaires sont des récepteurs de type rhabdomérique modifiés. Hein. Donc, c'est une hypothèse qui se fonde sur l'expression de gènes orthologues entre ces neurones ganglionnaires et les récepteurs rhabdomériques de l'invertébré. Hein. Donc, Platinéreis, où est-ce que je le trouve ici? Je ne sais plus très bien. Je pense que je le trouve par ici. Voilà. Donc, j'ai quand même finalement réussi à faire le bond entre ces deux niveaux. Euh,
Où est-ce que j'en suis? Voilà. Donc, il y a un cas que, sur lequel j'aimerais me pencher une seconde, c'est un cas que je trouve intéressant, c'est le cas du hagfish, hein, qui est la myxine en français, qui est un agnate. Vous voyez, il est là. C'est très très laid. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis trop gros, parce que c'est vraiment un animal monstrueux. Et c'est un animal qui n'a que deux couches cellulaires dans sa rétine au lieu des trois. Hein. Donc il n'y a pas de cellules bipolaires, il n'y a pas de cellules amacrines dans une rétine de myxine, hagfish. Hein. Et leurs neurones ganglionnaires sont directement couplés aux photorécepteurs. Donc, et puis ça projette vers l'hypothalamus. Ce sont des animaux qui ne voient pas, en fait, c'est des animaux qui sentent la lumière, c'est-à-dire qu'ils sont juste capables de voir des ombres, qu'il y a de lumière, il n'y a pas de lumière, ça permet de s'orienter, mais ils ne voient pas véritablement. D'ailleurs, si vous arrachez les yeux à une de ces bestioles, ça ne leur fait pas grand-chose. Elles ne disent rien, et elles continuent à se promener tranquillement. Donc, c'est plutôt un organe circadien qu'un œil véritable. Hein. Ce qui est amusant, c'est que l'œil de la myxine ressemble à celui de la larve de la lamproie, hein, qui est aussi un cyclostome, qui est aussi un agnate, qui est un tout petit peu plus évolué que le hagfish sur le plan de l'évolution, donc il est postérieur sur le plan évolutif. Et donc on peut penser que la larve de la lamproie a un truc du genre hagfish. Donc on peut penser, on peut avoir deux explications, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que c'est des choses qui sont toujours intéressantes quand les gens s'intéressent, parlent d'évolution. On peut avoir deux explications, ou bien la myxine est ancestrale par rapport à la lamproie, que la lamproie évolue à partir d'une forme commune à la myxine, mais que la myxine aurait été, pour ainsi dire, arrêtée dans l'évolution, pour autant qu'on puisse dire des choses pareilles, ou bien la myxine est une lamproie néoténique, c'est-à-dire une lamproie qui aurait arrêté son développement. À ce moment-là, on dirait que la myxine est postérieure à la lamproie. Hein. Donc, parce qu'il ne faut jamais, faut toujours faire très attention quand on regarde les arbres. Je vous ai fait cette remarque à la première séance. Les arbres, c'est toujours une théorie de l'évolution. Quand on fait un arbre, on écrit une théorie d'une certaine façon. Donc quand je mets ici le hagfish avant la lamproie, parce que la lamproie aurait trois couches d'yeux et que là il y en aurait trois couches de cellules dans son œil, là il y en aurait que deux, j'écris en fait que celui-là est venu avant celui-là. Mais si maintenant je dis que c'est un phénomène néoténique, que le hagfish est une lamproie qui aurait arrêté son développement, je n'ai plus de raison de mettre le hagfish avant la lamproie, mais peut-être plutôt après. D'accord ? Donc, de nouveau, quand vous regardez un arbre, pour ceux d'entre vous qui regardent des arbres phylogénétiques, je vous conseille de faire extraordinairement attention, parce que les gens qui écrivent les arbres, qui dessinent les arbres en théorie d'évolution, sont des gens qui essayent de vous imposer leurs idées. Et vous ne voulez sûrement pas qu'on vous impose vos idées. En tout cas, ce n'est pas une chose qui me viendrait moi à la tête de vous imposer la moindre idée, surtout pas les miennes. Donc, si maintenant je remonte un tout petit peu plus haut dans l'évolution, pour aller à la Siona, à la Sione. Hein, alors maintenant, on est de ce côté-là, hein, où j'ai mis mes Siones, moi. Voilà, ici, hein, chez les Ascidies. Donc, les Siones, c'est probablement ce qu'il y a de plus près de nous dans les Urocordeus. On pensait que c'était les Amphioxus, mais l'analyse des génomes, justement, a rapproché la Sione de Sapiens, à le détrôner, d'une certaine façon, à le détrôner Amphioxus. Donc, c'est le protocordé le plus proche des vertébrés. Donc, alors, la Sione a un organe photosensible qu'on appelle des ocelles, qui contient quelques photorécepteurs ciliaires, hein, et une grande cellule pigmentaire. Donc, c'est quasiment le prototype de Darwin. Hein. Et la lumière chez la Sione est hyperpolarisante, comme chez nous. Donc, et il n'y a qu'une seule opsine, chez la Sione. Hein. Donc, le scénario qu'on pourrait proposer, de toute façon, c'est un scénario un petit peu de ce genre pour l'évolution de l'œil. C'est-à-dire qu'au début, il y aurait eu un photorécepteur, voilà, ici, avec un petit peu de pigment, hein, parce qu'il faut le pigment quand même. Et là, je vous ai mis une lentille. Hein, rappelez-vous un petit peu la figure que j'avais montrée la dernière fois que j'avais piqué chez Darwin de Gruet. Je la remonterai peut-être tout à l'heure, si on a le temps. Et puis, quelques duplications qui font qu'on aurait eu un système de ce genre avec des neurones ganglionnaires qui maintenant... Non, c'est un neurone.
qui aurait été se projeter sur l'hypothalamus. Et c'est un organe qui serait un organe typiquement de type nictiméral, c'est-à-dire capable de repérer le jour et la nuit, si vous voulez, éventuellement de voir s'il y a une ombre qui passe d'un prédateur. De voir, de percevoir plutôt que de voir. Et puis l'invention des lentilles, qui permet évidemment de focaliser les rayons lumineux, donc c'est un avantage, et toujours dans un œil qui aurait deux couches, hein, comme chez le hagfish, hein, deux couches cellulaires. Et ensuite, la cellule bipolaire se serait intercalée entre les photorécepteurs et les neurones ganglionnaires. Donc ça augmente, si vous voulez, mettez une troisième couche, ça augmente les capacités computationnelles de votre œil, hein, et avec des projections, plus uniquement au niveau de l'hypothalamus, mais aussi au niveau du thalamus, c'est-à-dire quelque chose qui va aller vers le cortex. Et là, j'ai toujours ma lentille que j'ai inventée entre-temps. Donc c'est un scénario qui me paraît raisonnable, de même que comme il est 6 heures, il me paraît raisonnable de s'arrêter. La semaine prochaine, pour ceux d'entre vous qui ont envie de revenir, je vous parlerai de cette grande controverse, hein, entre l'origine monophylétique et polyphylétique, et puis je vous parlerai des premiers êtres pluricellulaires, c'est-à-dire comment en fait on a inventé la multicellularité. L'idée du cours, c'est d'arriver là la semaine prochaine, et puis après, eh bien, de vous montrer comment tout ça en fait a un lien extrêmement étroit avec la façon dont nous voyons aujourd'hui le développement du système nerveux central. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.